VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO dénonce un retour des discours de haine contre la communauté des Banyamulenge.
Au Sénégal, l'administration pénitentiaire assure que l'ancien président tchadien Hissène Habré, emprisonné à Dakar, se porte bien, contrairement aux affirmations de sa famille.
Au Burkina Faso, le FPR, un parti d'opposition, a été suspendu pour avoir demandé la démission sans délai du président Rochmar Christian Kaboré et du gouvernement.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été élu président du Parlement.
Ouverture hier à Washington des audiences publiques sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, la MONUSCO a qualifié hier d'inacceptables les discours de haine dans les médias envers les Banyamulenge, communauté tutsi congolaise dans l'est du pays. Le point avec Eric Manirakidza.
Nous avons documenté le retour des discours de haine dans certains médias et sur les médias sociaux contre les populations congolaises Banyamulenge, a déclaré François Grignon, l'adjoint au chef de la MONUSCO en charge des opérations. Ces discours sont inacceptables et doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. Nous condamnons cette violence et travaillerons avec le gouvernement pour que les responsables répondent de leurs actes devant la justice, a-t-il ajouté. La communauté Banyamulenge désigne des Tutsis congolais de d'origine rwandaise, majoritairement éleveurs dans la province du Sud Kivu. Depuis mai, cette région des hauts plateaux de Fizi est prise dans une spirale de violence. Un notable Munyamulenge a été tué par des membres d'une communauté rivale en raison de conflits liés à la gestion des pâturages et des champs. Le responsable onusien a estimé que la situation a connu une détérioration significative ces dernières semaines. La MONUSCO a donc renforcé sa présence dans la région tout en invitant l'armée congolaise à déployer un renfort afin de reprendre rapidement le contrôle de la situation.
Au Sénégal, l'administration pénitentiaire a assuré hier que l'ancien président tchadien Hissène Habré, emprisonné à Dakar pour crimes contre l'humanité, se portait bien et qu'elle veillait à sa santé, contrairement à ce que dit sa famille. Hissène Habré a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré.
Au Burkina Faso, le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, a annoncé hier que le parti d'opposition du Front patriotique pour le renouveau a été suspendu de toute activité pendant 3 mois, et ce pour atteinte à la loi sur les partis politiques. Le chef du FPR, Aristide Ouédraogo, avait récemment demandé la démission sans délai du président Rochmar Christian Kaboré et de son gouvernement. Monsieur Ouédraogo avait alors dépeint, je cite, une situation nationale simplement devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire, avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernants à sécuriser la nation. Fin de citation.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre, a été élu hier président du Parlement. Le point avec Bagassi Koura.
Rached Ghannouchi, âgé de 78 ans, a accédé hier à la présidence de l'Assemblée nationale avec 123 voix sur 217. C'est suite à un accord avec le parti libéral Kalbe Tounes de l'homme d'affaires Nabil Karoui, vaincu au second tour de la présidentielle du 13 octobre, qui avait pourtant tenté de se poser en rempart contre l'islamisme durant la campagne électorale. Son parti avait exclu avec véhémence jusqu'à la dernière minute tout accord avec la première force du Parlement, Ennahda, avec Guterres, quant à lui, réussit à s'imposer en se présentant comme le fer de lance des idéaux de la révolution de 2011, avec seulement un quart des sièges. Dans un parlement morcelé, ce parti doit cependant faire d'importantes concessions pour avoir une marge de manœuvre. L'élection de Ghanouchi à la tête du Parlement intervient 2 jours avant le délai pour que son parti annonce le nom d'un premier ministre qui aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés.
En Égypte, le ministre des Affaires parlementaires, Omar Marwan, a rejeté mercredi un rapport d'experts de l'ONU selon lesquels la mort de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi pouvait s'apparenter à un assassinat arbitraire. M. Morsi est décédé en juin après s'être effondré au tribunal. Selon M. Marwan, Mohamed Morsi est décédé dans la salle d'audience devant tout le monde. Le procureur général, a-t-il ajouté, enquête sur les conditions de son décès, assurant que les résultats seront publiés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
C'était hier, ici à Washington, la première journée des audiences publiques au Congrès pour déterminer si le président Donald Trump doit être mis en accusation dans l'affaire ukrainienne. Le point avec Abdourahman Dia.
Ancien militaire, William Taylor a ouvert les auditions publiques et télévisées aux côtés d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les deux témoins avaient déjà livré leur version à huis clos en octobre. M. Taylor a affirmé qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine et que cette diplomatie parallèle était dirigée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président Donald Trump. À la mi-août, il m'est apparu évident des efforts de Giuliani visant à poursuivre des intérêts allant à l'encontre des objectifs à long terme de la politique américaine en Ukraine, a renchéri M. Kent. Cette procédure est une campagne de calomnie, s'est insurgé le républicain Devin Nunes. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président Trump a promis de prendre sa revanche dans les urnes en 2020. Une dizaine d'autres auditions sont prévues au Congrès d'ici le 20 novembre.
Le président Donald Trump a reçu mercredi à la Maison-Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. À l'issue de leurs entretiens, le chef de l'exécutif américain a vanté sa bonne entente avec son homologue turc, mais il est resté évasif sur la Syrie un mois après l'offensive militaire d'Ankara. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Je suis un grand fan du président, a lancé d'entrée le locataire de la Maison-Blanche en évitant soigneusement les sujets qui fâchent, tels que l'achat par la Turquie de systèmes de missiles antiaériens S-400 à la Russie. Nous sommes amis depuis longtemps, a-t-il martelé. Après l'annonce par M. Trump du retrait de troupes américaines déployées dans le nord-est de la Syrie, Ankara a lancé le 9 octobre une offensive militaire visant les forces kurdes alliées de la coalition internationale anti-djihadiste. Fortement critiqué, y compris dans son propre camp, il a ensuite durci le ton, menacé de détruire l'économie turque et autorisé des sanctions contre la Turquie qui ont été levées après un accord conclu mi-octobre. Le cessez-le-feu continue à tenir, s'est félicité M. Trump, restant muet sur les critiques selon lesquelles il a, par son retrait précipité, abandonné les forces kurdes qui ont pourtant joué un rôle clé sur le terrain dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique.
Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza. Cet accord intervient à la suite des efforts de l'Égypte et a reçu l'aval des factions palestiniennes, incluant le djihad islamique, a indiqué un haut responsable égyptien. Selon ce même responsable, l'accord stipule que les factions palestiniennes doivent aussi s'assurer d'un retour au calme à Gaza et maintenir la paix lors de manifestations. De son côté, Israël doit aussi arrêter les hostilités et s'assurer d'un cessez-le-feu lors des manifestations de Palestiniens.
Les États-Unis ont reconnu hier Jeanine Añez comme présidente par intérim de la Bolivie après la démission d'Evo Morales après des semaines de manifestations. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis saluent la décision de la sénatrice bolivienne Jeanine Añez de prendre la présidence par intérim afin de mener sa nation durant cette transition démocratique. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nanit Talani.
La fermeture en août par le Nigeria de ses frontières avec ses voisins a fait baisser les recettes douanières du Nigeria d'environ 40 milliards de francs CFA, a signalé Mamadou Diop, ministre nigérien des Finances, lors d'une rencontre à Niamey avec une délégation du FMI. Le Niger a obtenu auprès de ses partenaires des ressources budgétaires supplémentaires, dont une partie viendra compenser la baisse des recettes engendrées par la fermeture de la frontière nigériane. Le Ghana s'attend à un ralentissement de la croissance économique et à une augmentation du déficit budgétaire l'année prochaine, alors que la production de pétrole a fortement diminué. La proposition du budget 2020 prévoit une augmentation des dépenses de 21%, soit 15,67 milliards de dollars, ce qui porterait le déficit budgétaire à 4,7% du PIB contre 4,5% cette année. Le gouvernement envisage de mobiliser jusqu'à 3 milliards de dollars au moyen d'obligations et de prêts syndiqués afin de soutenir les dépenses en 2020 et de gérer les dettes. Pour terminer cette minute éco, le FMI se réjouit des progrès de méga-projets de gaz naturel liquéfié du Mozambique. Mais l'organisation souligne la nécessité de construire des institutions plus fortes pour s'assurer que les revenus réduisent la pauvreté. Des réserves de gaz estimées à 5 000 milliards de mètres cubes ont été découvertes dans l'extrême nord du pays. Elles devraient faire du Mozambique un des principaux exportateurs du monde de gaz naturel liquéfié à l'horizon 2025.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début hier des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.
Huit entrées en matière réussies pour la République centrafricaine qui a disposé du Burundi 2-0 à Bangui. Le Malawi a pris le dessus sur le Soudan du Sud 1-0. 0-0 entre le Cameroun et le Cap-Vert. 3-0 pour la Guinée-Bissau devant l'Iswatini. La Namibie a battu le Tchad 2-1. 1-1 entre la Sierra Leone et les Lesotho. 0-0 entre le Burkina Faso et l'Ouganda. Le Sénégal a eu raison du Congo battu 2-0. Carton plein pour le Soudan face à Sao Tomé-Principe 4-0, 2-1 pour le Nigeria qui recevait le Bénin. Les Super Eagles étaient un cran au-dessus des écureuils, comme le reconnaît leur capitaine Stéphane Sessegnon.
Elle joue à domicile poussée par son public. Elle a déjà une grande qualité, donc je pense que j'ai joué là-dessus. Nous, on a été solidaires comme d'habitude. On a essayé de jouer un petit peu. On savait qu'on jouait à l'extérieur, donc il fallait pouvoir défendre bas et contre-attaquer. C'est ce qu'on a, on a pu faire. On a marqué en premier mi-temps. On a vite marqué, mais par contre, derrière, si c'est pénalty, je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas. Voilà, ça fait mal.
Stéphane Sessegnon, capitaine du Bénin, au micro d'Élysée Nkpatine. Cette première journée se poursuit ce soir avec le duel ouest-africain entre le Mali et la Guinée. La République démocratique du Congo reçoit le Gabon, le Ghana, l'Afrique du Sud. Les Comoriens se déplacent au Togo. L'Algérie, championne en titre, lance sa course face à la Zambie. À suivre aussi Égypte, Kenya et Mozambique, Rwanda.
Arsène Wenger, nommé directeur du développement du football mondial.
La FIFA a confié au technicien français la charge de superviser et de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes. Arsène Wenger occupera également un rôle central sur les questions techniques en qualité de membre des deux groupes consultatifs de l'International Board, garant des règles du jeu. Il succède ainsi à l'ancien international néerlandais Marco van Basten, qui a quitté la FIFA en octobre 2018. L'ancien technicien emblématique d'Arsenal, 70 ans, a connu le succès sur le banc de Monaco, puis des Gunners qui l'a dirigé pendant 22 ans jusqu'en 2018, remportant 3 titres de champion et 7 coupes d'Angleterre.
Des athlètes américains opposés à la réforme de la Ligue de Diamants.
Dans une lettre ouverte adressée à Sébastien Coué, président de l'I2AF, ces athlètes américains dénoncent la nouvelle formule de la Ligue de Diamants qui écartera l'an prochain 4 épreuves de la plupart de ses meetings. Des athlètes kenyans et éthiopiens ont aussi dénoncé cette mesure. La semaine passée, l'I2AF a annoncé la suppression du triple saut, du 3000 mètres steeple et du lancer du disque du programme d'un certain nombre de meetings au calendrier de cette compétition. Elle espère que cette refonte permettra aux meetings raccourcis dans leur durée de mieux séduire les diffuseurs. On parle de NBA pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Memphis et Charlotte, 119-117. Orlando et Philadelphie, 112-97. Les LA Clippers et Houston, 102-93. Minnesota et San Antonio, 129-114. Boston et Washington, 140-133. Toronto et Portland, 114-106. Et les Lakers et Golden State, 120-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les démocrates de la Chambre des représentants ont donc amorcé hier une nouvelle phase dans l'enquête pour la mise en accusation du président Donald Trump avec des témoignages publics et télévisés. Reportage de Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès. Récit de Lionel Gahima.
Les témoignages à huis clos au Capitole sont maintenant publics. Le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, dirige les audiences. L'un des premiers témoins est William Taylor, ambassadeur par intérim à Kiev, a-t-il dit.
Quelqu'un, je pense, qui fournit un autre service essentiel pour le pays en relatant des faits qui ont été portés à son attention, des faits très troublants dont il a eu connaissance.
William Taylor a déclaré aux représentants qu'il était clair que l'aide américaine à l'Ukraine était liée à la coopération de ce pays à ouvrir une enquête sur un potentiel rival du président Trump, Joe Biden, et son fils Hunter Biden. Également à la barre des témoins, le responsable du département d'État, George Kent, et l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Mary Yovanovitch. Les deux ont dit aux législateurs que Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, avait contourné les voies traditionnelles de la diplomatie américaine. Ils ont aussi souligné que la fourniture à l'Ukraine d'une aide approuvée par le Congrès était liée au respect par Kiev des intérêts politiques personnels du président Trump. Jackie Speier.
Il s'agit d'un cas très grave de corruption.
Les républicains, de leur côté, se concentrent sur le contenu de l'appel téléphonique de Trump avec le président ukrainien, Jim Jordan, représentant républicain.
J'ai confiance en l'appel. J'ai confiance au président Zelensky et au président Trump. Et je suis convaincu que les Ukrainiens ne savaient pas que l'aide avait été bloquée et qu'ils n'ont rien fait pour la débloquer. Voilà des faits. Nous savons tout cela et M. Schiff veut faire du bruit sur autre chose qui n'est pas essentielle à ce qui s'est passé.
Pour le président Donald Trump, ce processus est simplement injuste.
Il n'y a jamais eu de président aussi transparent. C'est une chasse aux sorcières au plus haut niveau. Et c'est très mauvais pour notre pays.
Quelle sera la suite? Elaine Kamrak de la Brookings Institute.
Le processus de mise en accusation ressemble à un procès devant un grand jury. Actuellement, ils ne font que rassembler des preuves, ils vont porter des accusations et de toute évidence, les républicains de la Chambre auront l'occasion de rejeter ces accusations.
Ces articles de mise en accusation vont certainement passer à la Chambre de représentants dominée par les démocrates. Par contre, le procès qui s'en suivra devant le Sénat à majorité républicaine a peu de chances de passer puisqu'il faudra obtenir le vote de 2/3 de sénateurs américains.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, l'enquête initiée par les démocrates au Congrès en vue d'une possible mise en accusation de Donald Trump entre dans une phase critique avec le début des auditions publiques de témoins. Cette procédure visant un président n'avait pas été tenue depuis plus de 20 ans et elle risque de diviser davantage le pays à un an de la présidentielle. Les républicains continuent de se rallier autour du président que les démocrates accusent d'abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne. Nous allons évoquer les implications politiques de cette procédure avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Toujours aux États-Unis, la Cour suprême se penche sur le sort d'environ 800 000 Dreamers, ces jeunes sans-papiers arrivés aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient enfants. L'administration Trump a supprimé le programme DACA initié par le président Obama et qui leur permettait de continuer de vivre et de travailler ici aux États-Unis. Reportage de Zlatika Hawke. Repris ici par Michel Joseph.
Les Dreamers et leurs partisans se sont mobilisés mardi en grand nombre devant la Cour suprême, ici à Washington, pour exhorter les juges à déclarer illégale la décision du président Trump de supprimer le programme DACA. Étudiant en médecine, né au Mexique, Cyrenio Cervantes était du nombre.
Lorsque le président Trump a supprimé le programme DACA, tous mes rêves se sont effondrés. Toute ma vie, j'ai travaillé dur et le président président Trump en supprimant DACA me signifie que mon avenir n'existe pas.
Les défenseurs des droits des immigrants entendent pour leur part poursuivre la lutte, quelle que soit la décision de la Cour suprême, assure l'activiste Omar Engel Pérez.
Nous savons que nous ne pouvons rien attendre de positif de cette administration. Mais nous savons aussi que la communauté immigrée est forte. C'est une force qui se fait sentir dans tout le pays.
On s'attend à ce que les juges conservateurs de la Cour suprême confirment la suppression de DACA en disant que sa création était illégale, une thèse défendue par l'administration Trump. Mais pour les partisans de DACA, dont Microsoft et l'université Princeton, l'attention doit plutôt se porter sur la nécessité de protéger les jeunes sans papier. Brad Smith, de Microsoft.
C'est important pour Microsoft pour les mêmes raisons que pour d'innombrables employeurs et pour Princeton. Nous dépendons des Dreamers. Nous en avons 66 comme employés et ils font un travail très important pour nous.
Certains experts estiment que c'est au Congrès et non aux tribunaux ou au président que revient la tâche de décider du sort du programme DACA. La suppression par l'administration Trump de ce programme en 2017 a été bloquée par plusieurs juges fédéraux et cours d'appel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Guinée, Amnesty International s'alarme de ce que l'ONG qualifie de violation des droits de l'homme qui sont multipliés ces dernières années et menace de s'aggraver avec la prochaine présidentielle. Malgré des dizaines de plaintes, l'impunité continue d'être la règle, souligne l'organisation dans un rapport. Bagassi Koura a joint à Conakry François Patuel, chercheur d'Amnesty International, qui a travaillé sur le dossier.
Les manifestations sont réprimées et la liste des personnes qui décèdent dans ces manifestations continue de s'allonger. Ensuite, parce que quand des personnes expriment une dissidence, que ce soit des journalistes ou des défenseurs des droits humains ou des militants pro-démocratie, eh bien, ils sont souvent arrêtés ou victimes de harcèlement judiciaire. Et tout cela se passe dans un climat d'impunité. Les autorités refusent de reconnaître les problèmes et peu de personnes font face à la justice quand elles commettent des violations des droits humains.
Récemment, il y a eu quand même assez de manifestations. Est-ce qu'on sait le bilan des victimes?
Oui, il y a beaucoup de manifestations en ce moment en Guinée parce qu'on approche l'année électorale. 2018 était déjà une année électorale avec les élections locales. En 2019, il y a déjà des inquiétudes de la société civile sur les élections présidentielles de 2020. Donc il y a le Front National de Défense de la Constitution qui a organisé plusieurs manifestations. Et malheureusement, les autorités ont tendance à interdire ces manifestations de manière arbitraire. Et les forces de sécurité considèrent que c'est leur devoir d'utiliser la force, quitte à utiliser la force, d'empêcher les gens de se regrouper quand les manifestations sont interdites. Sur le terrain, ça aboutit à une situation où les personnes qui bravent l'interdiction des manifestations sont régulièrement blessées et tués dans ces manifestations. Nous avons censé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 décès dans le contexte de ces manifestations. Nous avons des éléments comme des témoignages de victimes, de témoins, de personnel médical, mais aussi d'avocats qui laissent penser que ce sont les forces de sécurité qui sont impliquées dans au moins 59 cas de décès de manifestants et de passants lors de ces manifestations.
Et que vous disent les autorités justement concernant ces violences?
Alors la première chose, c'est qu'on a été reçus par plusieurs autorités. On remercie d'ailleurs les autorités pour leur ouverture et leur transparence. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Sécurité, le directeur national de la police, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Donc il y a eu un engagement du ministre de la Justice en particulier de dire qu'à l'avenir, les personnes seraient libres de manifester de manière pacifique et on espère que les autorités guinéennes tiendront leurs engagements afin de créer un climat apaisé à l'approche des élections présidentielles de 2020.
François Patuel, chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En Angola, le principal parti d'opposition, l'UNITA, tient un congrès qui devra élire demain un nouveau chef. Après 16 ans à la tête de l'UNITA, Isaias Samakuva se retire volontairement de ses fonctions. Eric Manirakis a joint le député et candidat à la présidence du parti, Raoul Danda.
On a 5 candidats qui sont dans la course vers la présidence de l'Union. Cela démontre d'abord qu'il y a un niveau de démocratie acceptable, et en plus que voilà, il y a vraiment des discussions qui se tiennent au sein du parti, parce que il y a de la volonté de conduire le parti, et puis il y a de l'intelligence, disons, de la part des uns et des autres pour pouvoir faire ce travail.
Est-ce que ça signifie que l'UNITA va changer d'orientation dans la manière de mener sa vision politique?
Ce n'est pas qu'il y aura changement en ce qui concerne le fond. C'est-à-dire, l'UNITA est basée sur 5 principes qu'on appelle principes de Mondai. Ce sont des principes qui ont été établis lors de la création de l'UNITA en 1966. Et ce sont des principes. Mais là, la façon de conduire la chose, le dynamisme qu'on va y mettre, c'est ça la différence. On a eu un parti conduit par le Dr Savimbi avec son dynamisme, avec sa façon de mener les choses. On a après eu le président Samakouva pendant 16 ans. Il a mené le parti d'une autre façon. Il est vrai maintenant qu'il va avoir un autre président. Et moi aussi, je suis un des candidats. Celui qui va remporter les élections maintenant, bien sûr, qu'il va pouvoir faire une chose, atteindre le même objectif, mais suivre peut-être un chemin différent.
Quelle est la valeur ajoutée que vous comptez apporter si vous êtes porté à la tête de l'UNITA?
On a toujours accusé l'UNITA d'être un parti dont la direction vient toujours du sud de l'Angola, du centre-sud de l'Angola. On est 5 candidats. Moi, je suis le seul candidat, le premier candidat qui se présente venant d'une autre région. Moi, je suis du Kabinda. Moi, j'ai été vice-président du parti pendant 4 ans. Dans mon projet, il y a priorité absolue sur la question du genre. Pour moi, les femmes doivent être dans la direction du parti, dans toutes les structures du parti, au moins à 45%. Et je veux atteindre 50%, c'est ce que je veux. J'ai une attention spéciale vers la jeunesse parce que je trouve que la jeunesse, c'est la continuité de notre parti. Les hommes meurent, l'organisation continue toujours et il faut qu'on prépare les jeunes pour donc prendre cette tâche et pouvoir marcher d'une façon ferme dans la conduction du parti. Et puis, je vais regarder les ex-soldats. Il y a le protocole de Lusaka qu'on a signé avec le gouvernement. L'UNITA a accompli sa partie, mais il y a des choses que le gouvernement ne fait pas. Alors, il va falloir qu'on parle avec le gouvernement pour voir comment résoudre ces problèmes.
Raoul Danda, député et vice-président de l'UNITA en Angola.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.